Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la Coupe du Monde par des ados sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Cyrine, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de 5e et 4e du collège Guillaume Budet. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la Coupe du Monde. Pour en parler, nous écouterons Manon et Maï qui parleront de la Coupe du Monde de football et ses records. Nous accueillerons ensuite David Sellers pour une interview sur les coulisses des transmissions des matchs. Puis avec Fatou et Adrita, nous parlerons des musiques pour cette coupe. Et nous finirons cette émission avec Maï qui expliquera comment se déroulera la Coupe du Monde féminine. C'est parti pour la Coupe du Monde par des ados.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nos chroniqueuses Manon et Maï s'installent en studio. Comment ça va ?
Bonjour, bien.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, ça va.
Très bien. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler d'une Coupe du Monde pleine de records.
En effet, la 23e édition de la Coupe du Monde de foot masculine se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. C'est une première. Elle aura lieu dans 3 pays, alors que d'habitude, un seul accueille cet événement. Elle sera organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Elle réunira en tout 48 équipes, un record. Autre particularité, cette compétition aura pas moins de 3 mascottes. Maple l'élan pour le Canada, Clutch le Pigargue à tête blanche pour les États-Unis et Zayou le Jaguar pour le Mexique. Et les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Les règles d'arbitrage vont changer. Par exemple, il sera possible de demander la VAR.
Mais c'est quoi la VAR ?
La VAR, c'est l'assistance vidéo. Donc la VAR peut être demandée pour contester un carton rouge ou un carton jaune, ou encore pour vérifier si un corner doit bien avoir lieu. De leur côté, les joueurs n'auront plus que 5 secondes pour effectuer une remise en jeu et 10 secondes pour sortir du terrain pendant un changement. Autre première, des pays comme le Cap-Vert, la Jordanie et Curaçao ont réussi à se qualifier, du jamais vu. Mais le bonheur des uns fait la tristesse des autres. Des nations comme l'Italie, le Cameroun et la Pologne seront les grandes absentes de cette Coupe du Monde.
Et vous ne le savez peut-être pas, parmi les 28 joueurs sélectionnés pour représenter la France, 4 sont nés à Paris ou en région parisienne. Kylian Mbappé est né dans le 19e arrondissement de Paris, N'Golo Kanté dans le 10e, Ibrahima Konaté dans le 13e. Adrien Rabiot, lui, est né un peu plus loin, à Saint-Maurice, en Val-de-Marne.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Manon qui était là précédemment. Vous recevez David Sellers. Vous allez parler des coulisses des matchs.
Alors, si vous êtes fan de foot, vous avez sûrement passé beaucoup de temps devant la télé. Mais connaissez-vous les coulisses des retransmissions des matchs ? Pour vous expliquer comment ça marche, notre invité David Sellers, réalisateur spécialisé dans les événements sportifs pour BeIN Sports, Canal+ et France Télévisions, va répondre à nos questions. Pour cette Coupe du Monde, il travaillera pour beIN Sports.
Alors, la Coupe du Monde, là, je ne vais pas la faire moi directement parce que je ne vais pas aux États-Unis.
Oui.
Je l'ai fait à Doha quand on était sur site, c'est-à-dire dans le pays, pendant la Coupe du Monde avec toutes les équipes de beIN Sports. Et moi, à Paris, je vais faire la Coupe du Monde indirectement. Je ne vais pas filmer les matchs de foot, mais je vais faire une émission et on va récupérer les images de foot pour pouvoir en faire une émission. C'est-à-dire qu'on aura des consultants, des journalistes, des anciens sportifs qui viendront parler du match. Par exemple, avant le match, il y aura un plateau avec des invités et des journalistes qui vont poser des questions. La télé, les gens verront le match de football puisque nous, on récupère les images qui arrivent des États-Unis. Donc tout le monde verra la même image puisqu'il y a certains réalisateurs qui partent à la Coupe du Monde. Il y a 3 Français qui vont là-bas, je crois un Américain, un Anglais, qui eux seront sur les matchs et feront les matchs de football. Et le reste, c'est fait dans chaque pays, des émissions autour de ces matchs-là.
D'accord. Et est-ce que ça demande beaucoup de préparation pour ces émissions ?
Alors, les émissions, oui, parce que parfois on a un nouveau décor, on a des décors spécifique à l'événement, comme la Coupe du Monde. Donc, suivant les budgets des chaînes, parfois ils ont plus de moyens que d'autres. Donc oui, effectivement, c'est autour de la Coupe du Monde. Il y en a qui vont représenter le pays parce que c'est les États-Unis. D'autres qui vont changer avec des jeux de lumière. Donc oui, il y a de la préparation, bien sûr. Les plateaux sont jamais les mêmes, donc les axes caméras ne vont pas être les mêmes. Et ça dépend combien d'invités on aura, donc 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et en fonction de ça, on mettra des moyens techniques et 3, 4, 5, 6, 7 caméras pour un plateau.
D'accord. Et vous avez dit que vous avez déjà suivi des Coupes du Monde. Vous avez suivi combien au total ?
Alors moi, je suis un ancien caméraman. Donc j'ai fait celle en 98 qui s'est passée en France.
Oui.
Donc mon lieu de travail c'était Lyon et Saint-Étienne, et après j'ai eu le privilège de faire la finale de la Coupe du Monde au Stade de France à Paris. Donc ça c'était en 98. Ensuite je n'ai pas fait la Corée, et ensuite j'ai fait celle d'après, c'était en Allemagne. Donc j'ai fait l'Allemagne aussi en tant que caméraman. Donc moi j'avais soit une caméra portable donc sur le terrain, soit une caméra, ce qu'on appelle des grosses caméras qui font beaucoup d'images au ralenti. Quand tu vois des images au ralenti, on appelle ça des caméras loop. Et donc l'image est très très ralentie pour voir les détails du geste du sportif. Donc, j'en ai fait deux, et puis après j'ai arrêté parce que moi je suis passé après réalisateur. Donc comme j'étais jeune réalisateur, ben, on m'appelle pas pour faire des Coupes du Monde. On prend plutôt des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le métier dans lequel ils vont opérer. Donc moi, j'étais un jeune réalisateur. Donc,
Merci beaucoup, David, de nous avoir répondu à nos questions.
Oui, merci vraiment beaucoup. La suite arrive sur la Coupe du Monde par des ados.
Shakira, we are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready too.
Strong.
Got it.
sala. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
On revient d'une petite pause musicale. C'était la musique Die Die de Shakira. L'émission La Coupe du Monde par des ados continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de la deuxième interview. Bienvenue à nos journalistes Adrita et Fatou qui vont s'interviewer entre elles. Et elles vont parler des musiques pour la Coupe du Monde. Allez-y.
Bonjour, nous allons parler des chansons qui vont être présentes durant la Coupe du Monde 2026. Nous allons commencer par Goals de Lisa. Fatou va donc répondre à mes questions pour nous apporter plus d'informations sur ceci. Alors, qui a écrit Goals ?
Cette chanson a été écrite par Lisa de Blackpink, Anita et Rema. Elles vont la chanter en featuring pour la Coupe du Monde masculine.
De quoi parle-t-elle ?
Eh bien, dans leur chanson, Lisa, Anita et Rema parlent d'elles-mêmes. Elles répètent en boucle qu'elles sont belles, riches et qu'elles ne s'inquiètent de rien.
Qu'en penses-tu de cette chanson ?
Bien que la musique soit joyeuse, rythmée et très commerciale, je n'ai personnellement pas vu le lien entre la chanson et la Coupe du Monde.
Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu ?
Ce qui m'a déplu dans cette chanson est la répétition des paroles. Selon moi, elle devrait parler d'autre chose d'elle-même. J'ai un peu plus aimé le passage de Rema. Comparé à Lisa et Anita, cette dernière parle beaucoup plus de cet événement sportif. Maintenant, merci de m'avoir posé ces questions, Adrita. Maintenant, nous allons poser des questions sur Die Die chantée par Shakira. De quoi parle-t-elle ?
Alors, cette chanson parle de la passion et la joie de pouvoir faire ce qu'on aime. Elle nous pousse à poursuivre nos rêves.
Qu'en pensez-vous ?
Je trouve que ça correspond à la Coupe du Monde et que c'est une excellente chanson.
Qu'est-ce qui vous a plu et déplu dans cette chanson ?
Ce qui m'a plu, c'est qu'elle chante dans plusieurs langues pour symboliser l'unité de tous les pays qui se rejoignent pour apprécier le foot et s'amuser. Ce qui m'a déplu, c'est rien en particulier. J'ai beaucoup aimé cette chanson.
Très bien. Je te remercie de m'avoir répondu. Et
moi aussi, je vous remercie pour ces informations très précieuses. La suite arrive sur la Coupe du Monde par des ados.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueuse Maï se réinstalle en studio pour nous parler de la prochaine Coupe du Monde féminine.
Après, place aux filles. Pour les amateurs de foot, la fin de la Coupe du Monde 2026 ne laissera pas de vide. Dès 2027, celle des filles prendra le relais. Cette 10e édition de la Coupe du Monde féminine aura lieu au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Elle réunira le nombre record de 32 équipes. Mais comme cet événement aura lieu dans plus d'un an, nous ne savons pas encore quelles équipes seront qualifiées. Tout ce que nous pouvons faire, c'est croiser les doigts pour la France.
Merci Maï pour ces infos. C'est la fin de notre émission La Coupe du Monde par des ados. Merci à Maï, Adrita, Manon, Fatou et David Sellers. Merci à Saskia, notre réalisatrice, pour cette réalisation, pour cette émission. On vous remercie pour nous avoir écoutés. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus. Générique de fin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info en vrac sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Anna, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par des élèves du club journal du collège Guillaume Budet. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons d'abord parler de l'univers des animés. Et nous parlerons ensuite de l'histoire mystérieuse du vol MH370 Malaysia Airlines. Allez, c'est parti pour Info en vrac.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Estelle. Vous recevez Clara et vous allez nous parler d'animé.
Oui, bonjour Clara. De quel animé allez-vous nous parler ?
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Kaguya, princesse cosmique.
Qui est l'auteur de ce film ?
L'auteur de ce film est Shingo Yamashita, coécrit avec Saori Natsuno.
D'accord, je vois. Et qui sont les personnages principaux de cette histoire ?
Les personnages principaux sont Hiroa Sakayori, une fille de 17 ans qui vit à Tokyo. Elle est fan de la streameuse Yachi Runemi et l'autre se nomme Kaguya, un nom qui lui vient du célèbre conte de la princesse Kaguya.
Ah, intéressant. De quoi parle ce conte ?
Le conte parle d'une fille apparue dans un bambou, recueillie par un vieil homme. Par la suite, plein d'hommes la veulent la marier. Elle décide donc de retourner sur la Lune, là d'où elle vient.
Très bien. Pouvez-vous faire un résumé rapide de leurs histoires ?
C'est une histoire qui se déroule entre le monde réel et l'univers virtuel de Tsukuyomi. Hiroa, une lycéenne, trouve un jour un bébé dans un poteau et elle le nomme par la suite Kaguya, car elle dit venir de la Lune.
Ok. Quand l'anime a-t-il été produit ? Combien de temps dure ce film ?
Il est sorti le 22 janvier 2026 et dure 2h22.
Plus tôt, tu nous as parlé de Tsukuyomi. Qu'est-ce que c'est ?
Tsukuyomi est un jeu virtuel où s'expriment des streamers tels que Yashio et Akira, le frère de Hiroa.
Ok. Qu'en penses-tu de cet anime ?
C'est un très bon anime avec des graphismes vraiment incroyables et une histoire émouvante.
D'accord, merci Clara d'avoir répondu à ces questions. Tu peux disposer.
Merci, au revoir.
Merci à toutes et à tous. La suite arrive sur Info en vrac. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. Every temps d'écouter Bad Angels, Anima et Lisa. L'émission Info en Vrac continue sur Radio Campus Paris. Nos chroniqueuses Annaëlle et Manon s'installent en studio. Mais maintenant, chut, écoutons les annonces.
Nous sommes le 8 mars 2014, il est minuit 41 et le Boeing 777 de Malaysia Airlines vient de décoller de l'aéroport international de Kuala Lumpur et se dirige vers l'aéroport de Pékin Capitale. C'était votre capitaine de bord, bon voyage.
À bord de cet avion, 239 personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. L'avion quitte l'espace aérien de la Malaisie pour survoler le golfe de Thaïlande. À ce moment-là, la ville de Ho Chi Minh au Vietnam s'apprête à prendre le relais, mais aucun signal ne leur parvient.
À minuit 20 du matin, on a subitement perdu toute trace de l'avion. C'est seulement en 2015 que l'on retrouve une vingtaine de débris vers l'île de la Réunion et l'île Maurice, dont nous sommes sûrs qu'ils appartiennent à l'avion disparu.
Mais revenons à ce jour maudit. L'avion n'a la capacité de voler que jusqu'à 8h30 du matin. Cet horaire arrive et toujours pas de nouvelles. Les familles ont peur, attendent l'avion désespérément, mais on ne peut rien leur dire, on ne dispose d'aucune information. L'avion a disparu.
Jusqu'à là, c'est tout ce que l'on sait de véridique sur la mystérieuse disparition. Tout ce qui va suivre ne sont que des théories. Le 10 mars 2014, la Malaisie annonce deux jours après que la présence de l'avion aurait été détectée en dehors de sa trajectoire prévue par un radar militaire.
On a aussi un signal de téléphone du copilote qui aurait été détecté au sud de leur endroit de départ, ce qui fait qu'ils auraient fait 2000 tours. Beaucoup de recherches s'en suivent, mais ne mènent à rien.
Pourquoi l'avion a-t-il dérouté ? Et est-ce que d'autres pays sont-ils impliqués ?
Le 17 juillet 2014, trois mois après la disparition de l'avion, un autre avion a été abattu très probablement par un missile russe au sud de l'Ukraine. Des journalistes du monde entier pensent, ou plutôt sont sûrs, que la Russie a été impliquée dans le blackout du MH370 le 8 mars. Elle aurait enclenché la disparition de l'avion à dessein afin de faire diversion par rapport au conflit de la Russie qui venait d'envahir la Crimée.
Parmi les passagers, il y a la femme, la fille, le fils et sa petite amie de Ghislain Ouattrelos qui raconte son histoire et son incompréhension dans son livre Vol MH370, une vie détournée.
Si ce vol vous intéresse, de nombreuses vidéos et documentaires sur différentes plateformes racontent différentes théories sur cette histoire qui a bousculé les médias à travers le monde entier.
C'est maintenant la fin de l'émission Info en Vrac. Merci à Estelle, Clara, Annaëlle et Manon. Et merci à Maëlys pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris. We'll be right back.